Vous écoutez Micro Déconstruction, l'émission qui vise à titiller les stéréotypes de genre sur Radio U 101.fm. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette troisième émission de Micro Déconstruction sur Radio U 101.fm. Aujourd'hui, nous traiterons des difficultés rencontrées par les hétérosexuels à l'ère post-MeToo. Depuis 2017, les rapports hommes-femmes ont été chamboulés. Avant cette date, les féministes étaient vues comme des extrémistes, puisque le combat était considéré comme déjà gagné. MeToo a montré que l'égalité en droit n'était pas suffisante. Les hommes ne se font pas traiter de salopes dans la rue parce qu'ils ont mis un short trop court. Ils ne se demandent jamais si le fait d'avoir 30 ans et pas d'enfants peut leur porter préjudice pour avoir un job. Ils n'ont jamais dû se battre pour éviter un viol et la liste est longue. Bref, MeToo nous a rappelé que le combat n'était pas terminé. Nous avons compris ce qu'impliquait la culture du viol et en quoi c'était induit par un système patriarcal. Et quelle surprise, les masculinistes sont arrivés. Ce qui a eu pour conséquence de creuser encore plus les incompréhensions entre les hommes et les femmes, notamment chez les jeunes qui se construisent sur les réseaux sociaux. L'enjeu de l'émission aujourd'hui sera donc de comprendre comment être en couple hétérosexuel en 2026 en intégrant ces nouvelles perceptions des inégalités de genre. Est-ce possible? Si oui, comment? Est-ce que finalement, le modèle du couple hétérosexuel traditionnel est la seule voie? Pas mal de questions complexes à traiter. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui invité Clémentine Mermet-Maréchal, coach en intelligence émotionnelle. Elle aide les couples et les personnes célibataires à mieux se connaître et à améliorer leurs relations amoureuses. Bonjour Clémentine.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous aurons également la chance, lors de cette émission, de conclure avec un billet d'humeur de Juliette, humoriste au Tonnerre Comedy Club à Brest. Elle a accepté de nous prêter sa plume pour traiter un sujet qui la touche beaucoup. Bienvenue Juliette, merci d'être parmi nous.
Merci, merci de m'avoir invitée.
Ravie de vous accueillir toutes les deux sur ce plateau. Et pour bien commencer, je vous propose d'écouter une musique qui est parfaitement en lien avec l'émission d'aujourd'hui, Doberman de Morgan.
Perché sur talon, je cherche pas des talons. Ils veulent tous me daler jusqu'à ce que je me mette à parler. Puis je les vois soudain détaler ou pisser dans leurs pantalons. Ça pensait que l'écho comme nous ça existait que sur le tel. Hein. Mais j'ai pas le temps d'apprendre à être celle que tu veux que je sois. Tu veux le package, la femme parfaite, je sais ça déçoit. Gamine, je vénérais les princesses, un jour mon prince viendra. Quand j'ai compris qu'il viendrait pas, je suis devenue le roi. Tais-toi, t'as tort, fais gaffe, je mens. Je mets Tiger, tu comptes les scores. Pas besoin de superman, ni d'un gentleman. Plus puissante, seule façon pareil que je suis borderline. Ambition plus grosse que la paire que je pose sur la table. Élégante et violente comme Doberman. Pas besoin de superman, ni d'un gentleman. Plus puissante, seule façon pareil que je suis borderline. Ambition plus grosse que la paire que je pose sur la table. Élégante et violente comme Doberman. Non, t'as pas le caractère assez forgé. Non, t'as pas le caractère assez forgé. Pour me tenir tête ou espérer un jour me faire la cour. Non, t'as pas le charisme qui pour manger. Je suis mal à l'aise à l'idée t'imaginer faire la mort. Et tu vois tous tes échecs dans mon succès. Je suis toujours celle qui survit à la fin du film et tu le sais. Trop vieille déjà pour DiCaprio. Je partage pas ma barque sur mon bateau. Seulement des serviteurs parmi les chiens qui embarquent.
J'ai de l'espèce, j'ai de l'espace. J'ai pas besoin qu'elle se retourne à ta place.
Pas besoin de superman, ni d'un gentleman. Plus puissante, cette façon pareil, j'suis borderline. Ambition plus grosse que la paire que j'pose sur la table. Élégante et violente comme Doberman. Pas besoin de superman, ni d'un gentleman.
Et oui, étant donné que l'émancipation de la femme sera au cœur du sujet, j'ai trouvé que la musique était plutôt appropriée. Clémentine, pourrais-tu maintenant te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours en coaching? Quelle est ton approche en termes d'accompagnement?
Alors, mon parcours coaching, il a commencé il y a très longtemps, puisque quand j'étais enfant ou du moins adolescente, j'étais souvent l'oreille attentive pour les problématiques affectives et intimes, notamment sur la vie sentimentale. Et en 2020, j'ai fait le choix de professionnaliser finalement cet accompagnement que j'avais déjà auprès des gens. Donc, je suis allée me faire former chez Love Intelligence, donc une certification en intelligence émotionnelle et amoureuse auprès de Florence Escaravage, parce qu'à mon sens, c'était la meilleure en France sur ce sujet-là. Et récemment, je me suis inscrite à un master au sein de l'IAE pour vraiment gagner en posture de coach, des techniques de coaching, des outils de coaching pour avoir un véritable diplôme de coach. dans ma façon d'accompagner, j'accompagne aussi bien des célibataires que des couples. Donc, soit à mon cabinet, soit à distance, sur des problématiques liées à la vie de couple ou la vie de célibataire, la sexualité, les ruptures, les mises en relation. Enfin, vraiment, je balaye large sur tous les sujets qui touchent à la vie sentimentale. Soit c'est des séances à la carte, soit ce sont des accompagnements suivis. Et parallèlement à tout ça, j'anime aussi chaque semaine une chronique chez Radioscoop sur le sujet de l'amour.
Super, merci à toi. Et c'est d'ailleurs cette chronique qui nous amène ici ce midi ensemble pour aborder le sujet. Alors cette fois, pas que sur l'amour, mais sur l'amour et le féminisme. Et du coup, pour lancer le sujet, j'aimerais te faire réagir à une étude de Morgan Stanley, banque d'investissement américaine datant de 2019. Cette étude, elle prédit que 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans seront célibataires et sans enfants en 2030. Personnellement, ce chiffre ne me surprend pas beaucoup. Je suis moi-même une femme de 35 ans, célibataire, sans envie d'avoir des enfants ou de projection de couple. Et une grande majorité de mes amis avec un grand E sont dans la même situation que moi. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Clem ? Est-ce que ça te surprend par rapport justement à ton expérience avec les couples, toi qui es dans le vif du sujet ? Est-ce que tu vois cette évolution dans la société, en fait, le fait que les gens n'aient plus tant que ça envie d'être en couple ?
Je comprends la tendance dans le sens où le développement personnel, l'épanouissement individuel, le plaisir personnel prend de plus en plus de place et parfois la vie de couple peut être perçue comme un enfermement. Donc effectivement, énormément de gens revendiquent aujourd'hui des choix de célibat et de ne pas vouloir fonder une famille pour échapper finalement à cet enfermement et renouer avec une liberté tant désirée. Mais il faut bien garder en tête que biologiquement, on est programmé pour aimer et être aimé. Et d'ailleurs, quand les gens ne sont pas en couple, finalement, on se rend compte qu'ils vont chercher des sources d'amour autour d'eux, soit auprès de leurs amis, soit auprès de leur famille, ou en tout cas sur des relations éphémères. Je dirais qu'il y a plutôt un ralentissement de la construction d'un couple, mais j'observe que beaucoup de célibataires ne se passent pas d'une vie sexuelle et en tout cas amoureuse, même si ça reste du court terme. Mais oui, effectivement, il y a de plus en plus de célibataires, ou en tout cas, aujourd'hui, quand on redevient célibataire ou qu'on est dans une période de célibat, on n'est pas forcément pressé à l'idée de se remettre en couple. Mais voilà, moi, j'observe que c'est plutôt des phases dans une vie, mais qu'à un moment donné, on est toujours rattrapé par ce besoin de construire à deux ou à plusieurs. En tout cas, la construction fait partie d'un besoin d'exister aussi.
C'est intéressant, effectivement. Donc, ce que tu veux dire, c'est que pour toi, il y a toujours besoin de construire, mais le modèle du couple n'est peut-être plus le seul envisageable à l'heure actuelle. Par contre, il y aura toujours besoin de tisser des relations, c'est ça ?
Exactement. Le lien, le besoin de lien, il est là et il sera toujours là. Et de toute façon, la sexualité, le sentiment amoureux, c'est des choses dont on a besoin. Donc, moi, je ne pense pas qu'on se passera. En fait, je dirais que ça va évoluer peut-être dans le fonctionnement des couples ou le fonctionnement de notre vie sentimentale. Mais je ne crois pas au fait qu'on peut se passer d'amour et de sexualité. Et se passer d'enfant, c'est autre chose. Mais en tout cas, on a toujours besoin dans nos liens affectifs de pouvoir vivre le sentiment d'amour, d'avoir ces émotions amoureuses, ces sentiments amoureux, ces ressentis amoureux, se sentir aimé, de se sentir désiré, se sentir admiré, écouté. Et la sexualité, pour beaucoup, ben, c'est un besoin aussi quotidien, ou en tout cas, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Alors après, oui, on peut vivre aussi une sexualité indépendante et voilà, il y a plein de choses qui participent à la sexualité même si on n'est pas en couple, mais j'ai du mal à croire qu'on se passera franchement définitivement d'une vie sentimentale. C'est trop ancré en nous.
Ok, alors pour le coup, j'entends deux choses dans ce que tu me dis. Le fait qu'on ait besoin de sexualité dans notre vie, j'entends, je ne vais pas te contredire sur ce point-là. simplement, effectivement, aujourd'hui, la sexualité, on peut l'obtenir sans être en couple. Ça, et de plus en plus, et de plus en plus facilement. Et moi, ce que je ressens personnellement dans mon entourage, c'est quand même une fracture. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai 35 ans, mes amis sont entre 30 et 40 ans. Et quand j'étais jeune, je pensais qu'à mon âge, on allait tout être mariés avec des enfants. Bon, bah loupé pour le coup, mais c'est pas un mal. C'est pas un mal. Moi, ce que j'ai l'impression quand on échange entre amis, c'est que bah en fait, on est devenu très indépendante parce qu'on nous a aussi dit qu'il fallait être indépendante depuis notre enfance, forte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus besoin économiquement d'être en couple. On n'a même plus besoin biologiquement des hommes pour faire des enfants. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est devenu beaucoup plus exigeante. C'est-à-dire que prenant en compte ben, tous les constats qu'on a faits et notre situation dans la société, j'ai l'impression que nous, les femmes, on n'est plus prêtes à accepter ce que nos mères acceptaient hier. Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors ça, c'est vrai, je te rejoins. Il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans notre quotidien. On vit à 100 à l'heure et parfois, on se dit « Oui, mais demain, si je me mets en couple, je vais devoir porter quelqu'un, je vais devoir me restreindre pour quelqu'un. » Et il y a cette sensation de fatigue qu'on ne veut pas vivre. Et on se dit, bah, au moins quand je suis célibataire, je suis plus léger, plus légère. Je ne rendais compte à personne. Je m'enlève finalement une charge mentale, une charge physique. Je pense que c'est plutôt une question de charge. Mais à un moment donné, on est rattrapé par le fait qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin de se sentir aimé, désiré. On a besoin d'aimer parce que l'amour, c'est en nous, c'est un sentiment qui est puissant. D'ailleurs, moi, je vois quand les gens viennent en coaching, il y a deux moteurs qui font que tu peux changer des choses dans ta vie. C'est soit l'amour, soit la souffrance. Tu ne changes pas ta condition quand tu es juste dans une situation d'inconfort. L'amour peut te faire bouger des montagnes, au même titre que quand tu es dans une situation de souffrance, bah, tu n'as pas d'autre choix que de bouger. Mais en fait, effectivement, ce célibat aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, et notamment beaucoup chez les femmes, c'est « je n'ai plus envie de porter quelqu'un, de me tuer à la tâche, de passer à côté de ma vie au profit des autres, donc au profit d'un mari ou d'un conjoint ou d'un enfant ». Voilà, c'est vivre aussi plus légèrement dans une vie qui déjà nous apporte beaucoup de lourdeur, beaucoup de poids, parce qu'on travaille beaucoup, il y a de l'ambition, on est sollicité aussi de partout. Donc à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est le soir quand on rentre chez nous. Ben voilà, on se pose sur un canapé et on a des comptes à rendre à personne.
Effectivement, c'est à peu près le constat que j'en ai aussi. Et pour le coup, c'est quand même un phénomène qui n'est pas isolé, qui ne concerne pas que mon entourage à proximité. Puisque j'ai été faire des recherches pour préparer cette émission, et j'aimerais bien vous parler d'un article du Courrier International qui est titré « Une crise mondiale du couple, l'hétéropessimisme et lassitude des femmes ». Il a été publié le 14 décembre 2025, donc il n'est pas si vieux que ça. Dans cet article, on décrit d'abord l'hétéropessimisme européen et j'aimerais commencer par le point de vue allemand, avec l'autrice Béatrice Frals, spécialiste en études culturelles et féministes. Elle critique notamment la romantisation de l'amour comme fonction patriarcale. Elle explique que, je cite, « notre système économique repose sur le travail de soins non rémunérés des femmes, mais nous sommes la première génération de femmes qui peut réellement vivre de manière indépendante des hommes. » Maintenant, le moment est venu où les hommes ne doivent plus être nécessaires mais désirés. Et c'est là que certaines discordances en matière de compétences relationnelles apparaissent. L'article parle également du ras-le-bol des femmes en Italie, en Pologne, de l'hétérofatalisme en Espagne. Et il est parfaitement résumé par le démographe catalan Albert Esteve. Il explique, je cite de nouveau, que les hommes cherchent des femmes qui n'existent plus. Et les femmes, quant à elles, cherchent des hommes qui n'existent pas encore. Clémentine, du coup, j'aimerais te faire réagir à cette phrase-là. Est-ce que le problème ne viendrait pas de là, en fait, aujourd'hui, si les couples... il y a de plus en plus de célibataires, donc le problème ne vient pas que d'un côté, je pense chez les hommes comme chez les femmes. Est-ce que le problème ne tiendrait pas au fait que, justement, les hommes cherchent les femmes d'un temps révolu, nos mères, et les femmes, elles, cherchent les hommes d'un futur hypothétique, même s'il serait souhaitable.
Moi, ce qui me dérange un peu dans cette étude, c'est qu'en fait, on voit finalement l'autre comme une contrainte. Moi, je pense que ce n'est pas tant le fait que des hommes veulent tel genre de femme ou des femmes veulent tel genre d'homme. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se dire qu'un couple, c'est une équipe. Moi, quand je reçois les gens, je leur dis, OK, le but, ce n'est pas que lui ou elle change ou qui est mieux, qui est moins bien, qui a tort, qui a raison. C'est comment on peut faire équipe ensemble ? Comment on peut s'élever ensemble ? Comment on peut être un binôme gagnant ? Comment on peut être co-créateur, co-responsable finalement de notre bonheur à deux et de notre bonheur individuel ? Moi, j'ai plein d'exemples toutes les semaines de personnes qui me disent grâce à lui ou grâce à elle, j'ai réussi à faire ça, j'ai surmonté ça, j'ai pu réparer ça, j'ai pu évoluer. En fait, l'idée, c'est plutôt, au lieu d'être dans une battle, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est plutôt de faire équipe et de dire finalement, tout seul, certes, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. À deux, on est plus fort. Au lieu d'avoir un cerveau, on a deux cerveaux, tu vois, pour réfléchir, faire de l'intelligence collective finalement, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective, et de voir finalement l'autre comme une force, comme une ouverture, une possibilité finalement de grandir, de s'ouvrir, de voir encore plus loin, de voir différemment, plutôt que de rester dans ses propres lunettes. Tu vois, quand tu es seul, ok, tu es peut-être plus vif sur ça ou ça, mais finalement, tu n'as qu'une vision, tu n'as qu'un niveau de réflexion. Et on le voit, finalement, le développement personnel, et c'est super, hein, moi j'adore ça, mais ça a sa limite, tu vois, à un moment donné. Ce qui fait qu'on évolue et qu'on est de plus en plus épanoui dans notre vie, c'est aussi l'ouverture aux autres. Et c'est parce qu'on est ensemble. Même là, tu vois, on fait une émission, on est trois. Est-ce qu'on pourrait faire une émission seule ? Ben moi, voilà, j'aime bien dire, la réussite d'un couple, c'est faire équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est dur. Parce que tu es dans une société où tu dois servir ton bonheur personnel, ton bonheur individuel. Les autres, c'est les contraintes. Les femmes, c'est ci. Les hommes, c'est ça. Donc, si je suis seule, je suis mieux. Bah ouais, mais l'équipe, c'est sympa aussi. Tu vois, c'est comme les sports d'équipe. Les sports individuels, c'est génial. Mais le sport d'équipe, c'est d'autres sensations, tu vois.
Oui, mais ça, c'est beau sur le papier. Mais comment on fait équipe avec un homme quand on vit dans une société patriarcale et qu'on se rend compte des systèmes de domination qui sont même pas inhérents forcément à notre compagnon, mais qui sont inhérents à la société et qui font que lui-même, avec toutes ses bonnes intentions du monde, il ne perçoit pas forcément ce qui pèse sur les épaules d'une femme.
Alors effectivement, hein, y a des choses encore bien ancrées dans notre société et il y a des réflexes inconscients qui sont toujours là. Mais je pense que la force d'un lien, c'est avant tout la force d'un dialogue, d'une communication. C'est est-ce qu'on peut finalement ensemble être co-créateur, co-responsable de ce qui nous arrive, de ce qu'on impulse ensemble. Et tout ça, ça passe par le dialogue. Tu vois, c'est comment finalement on peut faire l'un et l'autre un pas vers l'autre. Comment on peut rapprocher nos points de vue. Tu vois, c'est ça, c'est rapprocher nos cœurs, rapprocher notre vision, rapprocher nos points de vue en dialoguant. Mais en dialoguant avec l'idée de se rapprocher et pas de tirer la corde. Tu vois, moi, j'aime bien l'image de cette corde. Chacun tire des deux côtés. Bah, à un moment donné, soit l'un des deux finit par tomber. Mais le mieux, c'est peut-être de couper au milieu la corde avec une paire de ciseaux et de se dire, OK, comment, au lieu de tirer chacun de notre côté, on peut se rapprocher. Et c'est ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle, d'intelligence humaine. Et de se dire, bah, voilà, un couple, le couple, ça vient du mot copula en latin qui veut dire lien, liaison. Le lien, c'est le rapprochement. La liaison, c'est le rapprochement. C'est pas l'éloignement. Donc, le travail, à mon sens, il est aussi au-delà de déconstruire des choses qui sont ancrées depuis des millénaires. C'est aussi, bah, malgré ce qui est ancré en nous et en notre dans notre société, comment est-ce que tous les deux, ensemble, on peut essayer de se rapprocher, plutôt de continuer finalement de maintenir une distance, un éloignement.
Ok.
Parce que quand tu as une position de dominé-dominant, voilà, tu as deux acteurs, tu en as un qui accepte la position du dominé et l'un qui accepte la position du dominant.
Ouais, mais tu peux pas nier que, enfin, la solution idéale, on est déjà dans le coaching de couple. Mais ça, là, on est déjà dans une démarche de, je viens de voir, j'ai un problème avec mon conjoint, mais avant même ça, avant même ce phénomène de, j'ai décidé de prendre en charge mon couple, j'ai des soucis, je viens me voir, je viens me faire accompagner. Il y a quand même un phénomène sociétal, pour le coup, qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une montée. C'est pas juste des couples qui en ont marre, qui décident de leur côté dans un système individualiste qu'on arrête le couple. Parce que pour le coup, ça, d'ailleurs, le phénomène, on peut poursuivre encore un peu sur l'article, hein, le phénomène qui est détaillé dans l'article du Courrier International, il dépasse les frontières de l'Europe. Ce qu'on apprend dans l'article, c'est qu'au Brésil, les femmes pratiquent la détox volontaire des hommes. Et l'hétéropessimisme est perçu comme un progrès culturel. C'est-à-dire que, je cite, c'est le signe que les femmes questionnent leur rôle social et rejettent des dynamiques qu'elles acceptaient auparavant par pression ou par convention. Par là, j'entends le fait que, aujourd'hui, effectivement, c'est des conversations à avoir dans un ménage, il faut aller de l'avant. Mais là, on parle d'un phénomène qui, avant même de se mettre en couple, aujourd'hui, les femmes sont tellement habituée à être dans des situations qu'elles n'acceptent plus, qu'elles refusent en fait de se mettre en couple parce qu'elles ont l'impression que dans la société dans laquelle on vit, et ce n'est pas propre à l'Europe, ça se passe en Chine, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Amérique latine, donc c'est vraiment un phénomène mondial. C'est un phénomène où on voit quand même bien que au-delà de deux individus qui choisiraient de résoudre les problèmes de couple et qui viendraient te voir, il y a avant ça un phénomène sociétal qui est quand même profondément ancré dans la société et les femmes disent stop, quoi.
Bien sûr, et ça, je le comprends. Et pour le coup, j'accompagne beaucoup de célibataires aussi. Et je dis toujours aux célibataires, OK, quand vous allez entrer en relation, ou en tout cas que vous allez faire une rencontre et qu'une séduction, enfin un rapport de séduction va se mettre en place et que vous déciderez d'entrer en relation, c'est quoi votre projet dans ce binôme? C'est quoi votre projet amoureux? C'est quoi votre vision du couple? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce couple? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Quelles sont vos valeurs? Vous voyez, parfois on se pose... Le problème aussi, c'est que très souvent, on ne sait pas poser les questions de pourquoi on se met en couple. Donc, en fait, voilà, il y a un rapport de séduction qui se crée avec quelqu'un, on se plaît physiquement, émotionnellement, il y a un beau feeling, hop, on se met en relation, mais on n'a pas posé des règles du jeu. Tu vois, c'est comme si tu commençais à jouer à un jeu de société, mais tu n'as pas posé les règles parce que finalement, tu as accepté des règles universelles ou alors tu reproduis les règles que tu as connues dans ton schéma familial. Mais il y a de très beaux couples qui réussissent parce qu'au moment de l'entrée en relation ou avant même d'entrer en relation, ils se disent, OK, demain, si je suis en relation, c'est quoi les règles que j'ai envie de suivre et qui vont me faire du bien? Parce que l'amour, c'est pour se faire du bien et pas pour se faire du mal. Tu vois, c'est comme pour les mariages. Un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais les gens ont tendance à occulter le pire. Et quand arrive le pire, parce qu'on se dit, bah, en fait, le pire, c'est la mort ou la maladie. En fait, il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Ça peut être la trahison, l'infidélité et plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est au départ se dire qu'est-ce que j'accepte d'embrasser, d'accueillir quand je vais être en relation? Qu'est-ce que je suis prêt aussi à tolérer, à ne pas tolérer? Voilà, c'est quoi ma vision? C'est quoi mon projet? Et très souvent, ça, on l'a minimisé parce qu'on a été bercé par les contes de fées où un prince charmant arrive, on se plaît physiquement et hop, par l'opération du Saint-Esprit, bah, ça se passe super bien. Bien, ils vécurent heureux et eu plein d'enfants. Donc, on ne s'est pas posé des questions. Et moi, en coaching, j'amène ces questions. Si tu veux, je casse un peu ce conte de fées, ce mythe, ce rêve. Donc, effectivement, je rends un peu moins glamour l'entrée en relation. Mais en même temps, je sécurise la durabilité et le bonheur de la relation, tu vois.
Ouais, effectivement, je comprends. Donc, finalement, t'es quand même assez d'accord avec le fait qu'il y ait quand même un sacré mythe dans les relations de couple. Et tu reprends un petit peu la base dans tes séances de coaching, si je comprends bien. Hyper intéressant de voir comment tu reprends les choses. en couple. Et du coup, ça fait aussi le lien avec ma dernière question, qui serait plutôt orientée sur les célibataires. Cette fois, qui serait sur... En fait, justement, on a parlé du fait qu'il y a un mythe aujourd'hui, il y a deux mondes qui s'affrontent, d'autant plus chez les jeunes. Hein. Les jeunes femmes sont de plus en plus féministes, les jeunes hommes sont de plus en plus masculinistes, bien que, je le répète, les deux termes ne sont pas des opposés. Donc là, aujourd'hui, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est comment on fait, au stade de la rencontre, je parle notamment sur la partie application. Sur les applications de rencontre, j'ai trouvé de nouveau une étude qui a été réalisée par des journalistes autrichiennes et ça a été publié également dans le Courrier international. Et dans cette étude, elles expliquent qu'elles ont créé le profil d'une jeune femme de 21 ans, athlétique, sur Bumble, Tinder, toutes les applications, qui cherchait des hommes de 19 à 26 ans. Elles commençaient à échanger de tout et de rien, puis elles abordaient après quelques temps la question du féminisme. A priori, pour la majorité des hommes, pas de souci avec le féminisme, ils se disaient pour l'égalité. Mais il y avait toujours un mais. Comme le fait que, je cite, les femmes profitent du féminisme au travail pour être au-dessus. Je cite encore le fait qu'il y ait des ultra-féministes qui pensent qu'il faut inverser l'équilibre en faveur des femmes et que les hommes sont des sous-merdes. Le fait qu'on voit plus souvent des hommes dans les entreprises qui marchent bien parce qu'ils gèrent mieux le stress et prennent de meilleures décisions. Ou encore l'un d'entre eux estimait que le féminisme n'était nécessaire qu'en dehors des frontières de l'Europe. Donc en gros, le combat était gagné de notre côté. Ce qui est intéressant dans tous ces éléments, c'est enfin, cet article, en toute transparence, il m'a fait aussi penser, moi, à mes propres échanges que j'ai eus sur les applications de rencontres, parce que c'est exactement ça. À chaque fois que je commence, tout le monde est féministe aujourd'hui. Qui pourrait dire qu'il est contre l'égalité homme-femme ? Mais très vite, quand tu te présentes comme féministe, on te demande si tu n'es pas extrémiste. Mais c'est qui est extrême, en fait, dans le sujet ? Pour rappel, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son mari en France. C'est toutes les 4 secondes qu'une femme est victime d'une agression sexuelle. Coucou, quoi. Et c'est pour ça que quand j'entends, quand on me dit « j'espère que t'es pas extrémiste », j'ai pas... En fait, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Comment aborder la question sur les applications de rencontres ? C'est-à-dire que moi, j'ai pensé à deux stratégies. On oublie le fait qu'on est féministe pour aborder la question et on attend d'être en face à face, sauf qu'après, le risque, c'est la désillusion. Et du coup, comment faire sur ces applications de rencontres où, en fait, je suis persuadée qu'il n'y a pas autant de cons qu'il n'y paraît. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de stéréotypes aussi dans la tête des hommes. Et que du coup, peut-être commencer par ça, ce serait peut-être pas la meilleure idée. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là ? Être une féministe en 2026 sur les applications de rencontres ?
Je pense qu'il y a beaucoup de peur, surtout. En fait, tu vois, tout à l'heure, quand tu citais toutes les réponses, en fait, derrière tout ça, il y a souvent des peurs. Peur du rejet, peur de ne pas être acceptée. Le féminisme, en fait, ça fait peur. Tu vois, quand les personnes posent la question « mais est-ce que tu es une féministe extrême ou pas ?» Ça cache une peur, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur parce qu'on vient déconstruire quelque chose qui était très construit et très ancré depuis des siècles et des siècles. Donc, il y a cette grande peur. Après, moi, sur les applications de rencontre, je dis toujours aux personnes, parce que j'encourage énormément mes coachés à aller sur les sites de rencontres pour trouver l'amour, je leur dis toujours, première chose, ne mettez pas d'enjeux dans la rencontre, parce que plus on met d'enjeux, plus finalement on crée des attentes, des exigences, du jugement, de la distance. Donc allez-y sans enjeux. Et l'important, c'est de créer déjà un lien humain. Vous allez avoir l'opportunité de passer un moment avec un autre être humain. Et cette personne, elle a forcément des belles choses à dire, à offrir. Et il faut aller découvrir finalement qui est l'autre, quelle est sa personnalité, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses moteurs de vie, c'est quoi ses aspirations, c'est quoi sa trajectoire de vie, son parcours. Il y a plein de choses à aller découvrir dans une personnalité. Et c'est au regard de ces échanges que quelque chose va se passer ou pas, en termes d'émotions et de sentiments amoureux.
Merci beaucoup, en tout cas, pour l'ensemble de tes réponses. J'aimerais maintenant passer la parole à Juliette pour son billet d'humeur.
Alors, l'hétérosexualité post-MeToo, que dire ? Ah bah depuis MeToo, plus aucune agression sexuelle. Tout a disparu. On en parle désormais dans les livres d'histoire au chapitre « Barbarie médiévale ». Voilà, ça c'est la conclusion que j'aurais adoré entendre. Mais que dalle ! Enfin si, j'exagère bien sûr, il y a eu du changement. Désormais, les mecs bien demandent leur consentement aux femmes. Tout le temps ! Ça casse parfois le romantisme du premier baiser maladroit. Mais ça évite tout malentendu. Non, Georges, je ne t'ai pas envoyé un signal. Je me suis juste penchée vers toi pour rattraper le sel. Souris, notre sourire. En vrai, le consentement, c'est super. Bon, on est plusieurs à espérer qu'ils comprennent également notre consentement à ce qu'ils sortent les poubelles d'eux-mêmes. Mais bon, il y a encore du chemin. Ah, quand on connard, eux, ils n'ont rien changé. Hein. Ils ont même trouvé des sponsors. Des gens très motivés pour expliquer que dans le fond, les vrais problèmes, ce sont les femmes qui parlent. Les sales connes. Jamais été aussi fière de me faire traiter de conne, moi. Bon, hé, relativisons. Faut voir d'où on part, quand même. En tant que femme française, on a le droit de vote depuis seulement 80 ans. Ouais, avant, on comptait pour du beurre. Un peu comme le prince Andrew dans la famille royale britannique, sauf que nous, on n'avait rien fait pour. Rappelons aussi qu'il y a 60 ans, les femmes étaient prisonnières de leur ignorance sexuelle et de leur maternité. Les hommes dressés à exercer leur autorité, l'interdiction de se plaindre. Saluons d'ailleurs Ménie Grégoire et son émission d'Alloménie qui a permis de mettre des mots sur les mots, informer sur la pilule, l'avortement, encore si tabou et mal perçu à l'époque. De même que de dénoncer l'inceste. Et cela a servi dans toutes les couches de la société. Hein. Les riches, les pauvres, pour une fois qu'il y avait de l'égalité, c'était sur les trucs de merde. Elle aussi s'est fait railler. Par des femmes, mais surtout par des hommes. Mais quelle idée de mettre dans la tête des bonnes femmes qu'elles aussi peuvent jouir. Non mais franchement, on a que ça à foutre de penser à leur plaisir, tiens, on bosse nous. Et oui, c'est ainsi que les hommes ont découvert la charge mentale. Et il aura fallu attendre 1980 pour que le viol soit désormais un crime à part entière. C'est finalement la pugnacité de Gisèle Halimi, au moment de défendre le viol en réunion des deux touristes belges, Anna Tonglet et Araceli Castellano, qui aura permis de modifier la loi en 1980. Ce procès a d'ailleurs permis de montrer toutes les carences de notre système judiciaire face aux affaires de viol. Et parce qu'il faut voir le procès en question. Hein. Petit contexte, deux campeuses belges dans les Calanques se font aborder par un gros grelou qui veut juste ken. Elle l'envoie chier, il se vexe et il va chercher ses copains et revient pour l'aider à les convaincre.
Bah ouais, tout seul il n'arrivait pas.
Et c'est ainsi qu'à force de coups et blessures, ils sont finalement parvenus à les violer à tour de rôle toute la nuit. Et au procès, les violeurs ont quand même eu le culot d'expliquer qu'elles étaient consentantes. Bah oui, elles les avaient menacées avec un marteau. Mais au final, quand elles sont tombées inconscientes après les coups, elles disaient plus non, hein. Ouais, on en était là. Donc vraiment, on revient de loin. Et au regard de tout ça, je me dis que finalement, si les choses avancent doucement, elles reculent aussi un peu. Mais petit à petit, on avance. Comme une chanson de Claude François, finalement.
Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien.
C'est ainsi que les agressions sexuelles ont fini par nous hérisser, nous mettant dans le même état que Clo-Clo pendant qu'il revissait son ampoule. Et c'est ainsi qu'a mis à jour le mouvement MeToo. Et il y a encore du travail. Petite anecdote, l'autre jour j'assistais à une soirée stand-up avec le Carton Comedy Club et l'humoriste Rabah Benachour faisait la chauffe en demandant au public si quelqu'un avait une anecdote à raconter avec une célébrité. Et c'est ainsi qu'une nana a raconté qu'elle avait embrassé Johnny Depp de force à l'aéroport alors qu'elle l'avait croisé avec sa femme de l'époque, Vanessa Paradis. La salle était en délire. Tout le monde applaudissait. Moi, j'étais tétanisée. Elle se vante ouvertement d'avoir agressé sexuellement une célébrité devant son épouse et tout le monde applaudit. Waouh. Vous imaginez si Depardieu avait fait la même ?
Et là, je reconnais ma petite maquilleuse avec son mec. Ni une ni deux, je l'empoigne et je la galoche. Elle a fait semblant de me repousser, mais dans le fond, je sais bien qu'elle mouillait.
À l'heure actuelle, ça ne ferait rire personne. Enfin, j'espère. Mais il y a 20 ans, ça passait crème, hein. Donc bon, soulignons tout de même le progrès. Tout ce que j'espère désormais, c'est lorsque ma fille sera une femme, plus personne n'osera demander à quelqu'un dénonçant une agression sexuelle « Mais t'étais habillée comment ?» J'espère aussi que la voix des enfants, trop souvent oubliée dans toutes ces avancées, se fera elle aussi entendre haut et fort afin qu'il y ait de moins en moins de victimes. On dit que l'espoir fait vivre. Avec tout l'espoir que j'ai pour ma fille, je vise au moins 112 ans.
Eh ben, merci beaucoup Juliette, c'était super pour cette première à notre micro de micro-déconstruction. Et avant de conclure, peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur où est-ce qu'on peut te voir jouer sur Brest prochainement.
Alors, j'ai quelques dates avec la Mouettrieuse et le Tonnerre Comedy Club. Je serai notamment le 8 avril à Rennes également, au Meux Comedy Club, le 20 mai à La Touche Arme à Rennes. Et sinon, dans les bars habituels, La Source à Brest ou le Café du Marché, lorsqu'il y a des soirées stand-up, restez connectés.
Super. Et sur ton Instagram, quel est...
Vous pouvez me retrouver sur le compte Juliette_Seillac, où parfois j'essaye de poser quelques vidéos rigolotes et puis je ne manquerai pas d'y mettre cette chronique.
Merci à toi. Et Clémentine, est-ce que tu pourrais nous dire avant de conclure également où te contacter si justement on souhaite être coaché?
Oui, alors vous pouvez me retrouver via mon site internet cmm-du6coaching.fr, sinon mes réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Voilà, je fais aussi bien des séances en présentiel à Lyon qu'en distanciel, donc toute France. En tout cas, un grand merci de m'avoir invité à votre micro.
Merci à toi, merci à Juliette également et merci aux auditeurs de Micro-Déconstruction sur Radio-U101.fm. Nous espérons que cette émission vous a plu et je vous laisse sur la chanson de Marguerite, Les filles, les meufs. Je vous souhaite une excellente journée.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais pour eux c'est compliqué, et ouais cette foutue virilité, qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.